France Inter.
Ce soir, c'est simple, je vais faire revivre une voix disparue, celle d'une solitaire dont la voix était unique.
I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. Don't know the beauty you are, but if you don't, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hand, I see you. I be your mirror. I be your mirror. I be your mirror.
J'ai du mal à croire que tu ignores la beauté qui est la tienne, mais si c'est le cas, laisse-moi être tes yeux, une main tendue dans ta nuit, pour que tu n'aies pas peur. Des mots de Lou Reed, interprétés par la chanteuse allemande Nico, ceux de I'll Be Your Mirror, Je Serai Ton Miroir, interprétés en 1967 par la chanteuse allemande au sein du Velvet Underground, dans le premier album du groupe, celui dit Avec la banane. Un disque qui, il faut le rappeler, n'avait à sa sortie suscité qu'un intérêt extrêmement faible. Le public se passionnait alors pour le rock psychédélique californien des Doors ou de Jefferson Airplane. Quant à la critique, elle considérait ce groupe new-yorkais underground et expérimental au style sinistre comme au mieux une curiosité sortie du cercle d'excentrique autour de l'artiste Andy Warhol. D'ailleurs, Lou Reed avait fait la grimace quand Warhol, qui était de fait le mentor du groupe, avait exigé que Nico chante trois de ses compositions. I'll Be Your Mirror, qu'on vient d'entendre, mais aussi le célèbre Femme Fatale, ainsi que All Tomorrow's Parties. Nico était alors une étrangère au sein du Velvet Underground, d'ailleurs dans les deux sens du terme. Sur scène, elle était présentée comme une espèce de monstre de foire. Elle se tenait là, pétrifiée, drapée dans sa beauté froide de mannequin germanique, projetant un malaise qu'elle était la première d'ailleurs à ressentir. Warhol l'avait imposée au groupe, pensant à juste titre que dans l'espèce de happening avant-gardiste qu'étaient alors les spectacles du Velvet Underground, sa simple apparition serait une attraction intrigante. Et ça avait d'ailleurs été le cas, au grand agacement de Lou Reed et de John Cale, qui par la suite allait néanmoins complètement changer d'avis sur elle. Alors replongeons-nous dans ce New York du milieu des années 60 et où la berlinoise, de l'Ouest évidemment, Christa Pefgen, dite Nico, Nico c'était le prénom d'un ami photographe grec qui lui avait inspiré ce pseudonyme inattendu pour une femme, elle est un des premiers personnages que Andy Warhol, dans ce qu'il appelle sa factory, présente comme une, entre guillemets, superstar, qu'elle n'était évidemment pas au sens propre. Elle fait partie de ce groupe informel d'excentriques aux talents divers que Warhol présente comme des œuvres d'art vivantes, des gens dont l'apparition même constitue une performance. Dans le premier film expérimental que Warhol a tourné avec le cinéaste Paul Morrissey, Chelsea Girls, une séquence récurrente montre le visage de Nico secoué de sanglots. Nico a alors à peu près 25 ans. Elle a connu dans la mode un grand succès, très jeune, dès l'âge de 17 ans. Elle a été à Berlin le mannequin d'un grand couturier. Elle a ensuite posé pour Chanel et elle a également fait une apparition dans le film La Dolce Vita de Federico Fellini. Mais on peut dire que tout ça ne lui a fait ni chaud, ni froid. Son ambition profonde est d'être chanteuse. Et dans le milieu, on considère ça comme le caprice d'une jeune beauté qui n'est pas du tout taillée pour ça. Faut dire que sa voix grave, bizarrement appuyée, dégage une insistante morosité. Si vous écoutez le premier 45 tours que Nico a enregistré et publié en 1965, I'm Not Saying, une chanson de l'excellent auteur de folk canadien Gordon Lightfoot, vous vous rendez compte que quelque chose ne colle pas vraiment. Dans cette chanson au rythme enjoué, Nico est accompagné par un grand orchestre dans le style de la variété de la période et on perçoit pourtant dans sa voix une tristesse plombée à la limite du malaise. Comme je vous l'ai dit, Lou Reed et surtout John Cale, qui fut son collaborateur artistique de premier plan, ont complètement changé d'avis au sujet de Nico en tant que chanteuse et musicienne. John Cale a en effet assisté dans la réalisation à partir de l'année 68 de sa propre musique. Une musique inouïe au sens propre, comme on n'en avait jamais entendu et comme on n'en entendrait plus jamais. Deux albums donc signés Nico, parus en 1968 et 1970, The Marble Index et Desert Shore, longtemps indisponibles, viennent d'être réédités. Alors j'ai pas eu ces rééditions en main, mais d'après les comptes rendus que j'ai pu en lire, elles sont accompagnées d'un livret très riche, incluant un texte extrêmement documenté qui éclaire le contexte donc de ces enregistrements. Ceux-ci n'en finissent pas de fasciner parce que, comme je vous le disais, ils nous font visiter une terre musicale absolument inconnue. Je vous en parlerai bien sûr tout à l'heure, mais pour Nico, les choses ont commencé d'une manière plus orthodoxe par un album intitulé Chelsea Girl, paru en 67, dans lequel elle interprétait des chansons qui n'étaient pas d'elle, dont celle-ci, I'll Keep It With Mine, une chanson de Bob Dylan que la chanteuse Judy Collins avait créée 2 ans auparavant.
Not lost. Everybody will help you. Some people are very kind, but if I can save you any time. I'm not loving you for what you are, but for what you're not. Everybody will help you discover what you set out to find. But if you any time. much gambling these days. These days I seem to think about how all the changes came about my way. And I wonder if I'd see another highway. I had a lover. I don't think I'll risk another these days. If I seem to be afraid to live the life that I have made in song, it's just that I've been losing so long.
These Days, l'une des trois chansons écrites pour Nico par Jackson Browne, un très jeune auteur-compositeur-interprète californien en 1967, qui fut aussi son amant. Une chanson qui a été reprise par quantité d'interprètes, de Elliott Smith jusqu'à la superstar du R&B Drake, il y a quelques années. Une chanson qui figure dans le premier album de Nico, qui s'appelle Chelsea Girl, d'après le célèbre Chelsea Hotel à New York où elle résidait. C'est Tom Wilson, un collaborateur de Bob Dylan, qui a supervisé cet enregistrement, composé de chansons qui n'étaient pas de Nico, mais que Lou Reed et John Cale, mais également Jackson Browne, on l'a vu, mais aussi Tim Hardin, lui ont fourni. Pour rendre la chose plus séduisante, Tom Wilson a ajouté des ornementations orchestrales. Si Nico s'en était tenu à ce style, ses chansons figureraient parmi les curiosités de la fin des années 60, une période déjà riche en bizarreries et séduisantes. En vérité, elle n'était pas du tout heureuse de cet enregistrement qu'elle jugeait superficiel. Nico avait en elle une toute autre musique et d'autres mots également, les siens. Elle avait fait un peu par hasard, dans une brocante à San Francisco, l'acquisition d'un harmonium portatif. Et elle ne voulait plus, pour chanter, dépendre d'un guitariste. Et selon le témoignage de John Cale, elle était devenue incapable de chanter sans ce soutien, ce qui rendait les enregistrements difficiles. Parce que déjà, explique Cale, l'instrument était désaccordé, y compris, dit-il drôlement, avec lui-même. De plus, Nico n'avait pas un bon sens du rythme et était incapable de suivre un tempo régulier. Il a donc fallu inventer quelque chose de particulier pour orchestrer ses chansons, ce que John Cale, un musicien de formation classique, marqué par l'avant-garde musicale de son époque, est parvenu à faire non sans difficulté. Je cite John Cale à nouveau. « Quand on orchestre une chanson, on essaie en général de plaquer une structure dessus. Mais là, il fallait faire autrement. Comme la composition n'était pas centrée, je gommais la notion même de centre et je travaillais autour du noyau central de la tonalité et des changements d'accord. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre très précisément ce qu'il veut dire, n'étant pas musicologue moi-même, mais John Cale ajoute ceci que je comprends mieux. On gardait une tapisserie flottante à la forme libre, comme toile de fond, derrière ce qu'elle faisait, et c'est ainsi que les choses sont devenues plus abstraites. Et en effet, c'est dans cet esprit que John Cale a abordé l'enregistrement de ce qu'on peut considérer comme le premier album dans lequel Nico est véritablement Nico, The Marble Index. 8 chansons qu'elle avait composées dans la baignoire d'un appartement new-yorkais exigu où elle logeait à New York chez un ami après avoir, j'imagine, quitté le fameux Chelsea Hotel, peut-être provisoirement. En tout cas, elle a enregistré cet album en 4 jours seulement dans un studio de Los Angeles avec John Cale. Des chansons dont les paroles étaient inspirées par la poésie romantique et symboliste, comme dans Lawns of Dawn, les pelouses de l'aube, qui commence ainsi « Peux-tu me suivre ?» Peux-tu suivre mes détresses, mes caresses, fougueuses hypothèses ? Nage et noie-toi dans des messes de l'aube. Il te bénit, il me bénit, le jour que la nuit caresse. On se croirait franchement chez Rimbaud et c'est pas tout à fait un hasard. Nico avait rencontré en effet Jim Morrison au festival pop de Monterey en 1967 et celui-ci, qui fut son amant, lui avait fait lire la poésie romantique anglaise, William Blake, Mary Shelley, la créatrice du roman Frankenstein, et il l'a également emmené sur la côte ouest où il l'a initié à de nouvelles drogues, l'encourageant en somme à aller là où personne n'était allé. Et sur le plan de la musique aussi, Nico a souhaité aller ailleurs. Comme le dit John Cale, dans The Marble Index, on était plus proche de la musique classique moderne européenne que du folk ou du rock. Voici une chanson qui figure dans l'album suivant de Nico, le second classique lunaire qu'elle a enregistré cette fois à Londres, Desert Shore, publié à la fin de l'année 1970. On a dit de cette chanson Janitor of Lunacy, gardien de la folie, qu'elle était adressée à la mémoire de Brian Jones, le guitariste des Rolling Stones, mort tragiquement en 1969 et qui avait été un de plus son amant, ou encore que c'est une ode à l'héroïne qui fut hélas la grande passion malheureuse de la vie de Nico. Gardien de la folie, paralyse mon premier cri, pétrifie le berceau vide, tolère ma jalousie, reconnaît mon désir désespéré.
Vertigo Trip sur France Inter.
Fire hermit stumbles over the cloudy borderline. Frozen warnings close to mine. Close to the frozen borderline.
Frozen Warnings, des signaux gelés dans la contrée imaginaire où réside la narratrice de ce mystérieux poème chanté, des signaux gelés près de la frontière gelée. C'est une chanson qui figure dans le deuxième album de Nico, mais le premier à part entière, paru en 1968 de Marble Index. Cependant, cette version que vous venez d'entendre a été enregistrée par elle seule dans un studio de la BBC en 1971. En fait, John Cale présent à ses côtés, comprenait, comme par télépathie, cette musique mystérieuse que Nico entendait dans sa tête. Ces images de frontières glacées, de rails de chemin de fer perdus dans la brume hivernale, on ne peut s'empêcher d'y voir une évocation des paysages dévastés de l'Allemagne de l'après-guerre que la petite Christa, la future Nico donc, a pu voir dans son enfance. D'après ce qu'on sait de ses débuts dans la vie, son père, un officier de l'armée allemande, aurait été gravement blessé à la tête, puis sujet à des crises de folie, envoyé par les nazis en camp de concentration. Disparu en tout cas. La jeune fille a dû travailler enfant comme couturière pour aider sa mère, veuve. Et Christa a été, c'est ce qu'elle racontait, à peine adolescente, violée par un sergent de l'armée américaine dans une base de l'US Air Force. Elle a gagné sa vie comme mannequin à Berlin dès l'âge de 15 ans, une activité à laquelle, selon son témoignage, elle n'a jamais pris le moindre plaisir. Comme le disait John Cale, Nico haïssait la mode, elle haïssait le fait d'être blonde et sublime, et elle avait fait le bilan, sa beauté ne lui avait apporté que du chagrin. Dans un film qu'une cinéaste italienne lui a consacré, évoquant les derniers moments de sa vie en 1988, le film d'ailleurs s'appelle Nico 1988, on la voit se regarder dans un miroir et se trouver moche. Et elle dit à ce moment-là dans le film « Tant mieux, parce qu'au temps où j'étais si belle, j'étais malheureuse ». Alors je vous ai parlé de sa rencontre avec Jim Morrison, il y a une autre aussi, toujours à New York, qui a changé sa vie, celle de Leonard Cohen. Cohen était lui aussi un client du fameux Chelsea Hotel, et il était absolument fasciné par Nico. Quand elle chantait quelque part, il s'asseyait au premier rang et il la regardait, c'est lui qui témoigne de ça, avec des yeux de merlan frit. Sauf que, hélas pour lui, sexuellement, il n'intéressait pas du tout Nico. Une fois, il a bien essayé de lui mettre la main quelque part et il s'est pris une grosse baffe, suivie d'un éclat de rire tonitruant. C'est le rire de Nico, était paraît-il le proverbial. En tout cas, Nico lui aurait dit à Cohen, ça fait toujours plaisir à entendre, qu'elle aimait que les beaux mecs. Ce qui n'a pas empêché Cohen de s'acharner, parce qu'il supportait pas qu'on lui résiste. Il a même, de son propre aveu, pratiqué, dans le but de la faire céder, un rituel de magie noire. En vain. En tout cas, Cohen est un des premiers à avoir encouragé Nico à écrire ses propres chansons. C'est même lui, dit-on, qui l'aurait encouragé à se procurer ce fameux harmonium qui resterait son instrument de prédilection indissociable de sa musique. Voici une chanson qui s'appelle Afraid, dans laquelle Nico est accompagné par le piano de John Cale et dont celui-ci a réglé les orchestrations de cordes. Une chanson dans laquelle on entend Nico chanter ces mots impressionnant, un peu effrayant, même s'ils sont splendides. You are beautiful and you are alone. Tu es sublime et tu es seul.
Grace, often the adult.
lose your hunger, capture the fake, confuse your hunger, capture the fake, banish the faceless, reward your grace, banish the faceless, reward your grace.
Je suis le petit chevalier, avec le ciel dessus mes yeux. Je ne peux pas me effroyer. Je suis le petit chevalier, avec la terre dessous mes pieds. J'irai te visiter.
Le petit chevalier, je vais vous en dire deux mots. Dans les années d'avant New York, Nico est passé par Paris, où elle a été de toutes les fêtes. Elle a ainsi croisé Alain Delon, dont elle dit avoir eu un fils, Harry, mort récemment, que l'acteur s'est toujours refusé à reconnaître, bien que les parents d'Alain Delon aient choisi de l'élever. On voit le petit Harry secouer, c'est un document, avec application un tambourin pendant une répétition du Velvet Underground, et c'est sa voix qu'on vient d'entendre, il avait 7 ou 8 ans, dans cette petite comptine énigmatique, le petit chevalier qui figure dans l'album As a Chore, sur la pochette duquel Nico apparaît en longue robe blanche, assise en Amazone sur un cheval blanc, sur fond de paysage désertique, As a Chore, guidé par Harry, qui tient les rênes du cheval. C'est une image extraite du film de Philippe Garrel, La cicatrice intérieure. Philippe Garrel, dont Nico a de nombreuses années partagé la vie, et partagé autre chose aussi, qui leur a fait à la fois du bien et du mal à tous les deux, l'héroïne. Dans la première moitié des années 70, Nico a été au cœur de ce qu'on appelait la musique underground en Europe. En 72, elle a participé à un concert exceptionnel à Paris, au Bataclan, filmé par une équipe de télévision pour l'émission Pop 2 de l'ORTF, avec Lou Reed et John Cale. Et c'était dans une configuration extrêmement sobre. Ils étaient assis tous les trois sur des tabourets. Et plus tard, toujours grâce à John Cale, Nico est vraiment revenu au premier plan. Il l'a fait participer à un concert historique au Rainbow, une salle de Londres, en juin 74, un concert qui les unissait avec Kevin Ayers, un auteur-compositeur-interprète qui occupait alors les premiers plans, très doué, une sorte de Syd Barrett qui ne serait pas devenu fou et dont tout le monde pensait qu'il allait devenir une superstar. Et puis il y avait aussi un jeune Brian Eno qui venait de publier son premier album de chanteur un an après son surprenant départ du groupe qui l'avait fait connaître, Roxy Music. Nico avait interprété une version exceptionnelle de The End, une chanson des Doors, dans laquelle Jim Morrison donnait l'impression d'improviser les paroles comme elles lui venaient, tant son interprétation paraissait spontanée. The End a donné son nom à l'album, entre guillemets, de retour que Nico a publié à la fin de l'année 74 chez Island, la compagnie pour laquelle enregistraient déjà Kevin Ayers, John Cale et Brian Eno. Un album à nouveau supervisé par John Cale. Et cette année-là, Nico a participé à un événement mémorable en France, un concert à la cathédrale de Reims avec le groupe allemand de musique, on appelait ça musique planante, c'était une musique faite avec des synthétiseurs, Tangerine Dream, un événement qui avait fait venir des chevelus des quatre coins de la France. Et j'y étais allé moi-même à 16 ans, coincé dans le coffre d'une voiture. Un événement underground dans une cathédrale. C'était la transgression absolue. D'ailleurs, il y avait des gens qui en avaient été scandalisés. On a prétendu que les jeunes présents avaient pissé contre les piliers, qu'ils avaient pris des drogues et même copulé sous des couvertures. Alors, je sais pas si c'était tout à fait vrai. Mais enfin, c'était pas tout à fait faux non plus. Et Nico, je me rappelle, était arrivé très tard, à pas d'heure, dans une espèce de brume, enfin, je me suis endormi, je crois. Elle avait chanté The End. Enfin, ça, c'est sûr et certain.
Of town, ride the king's highway, baby. Weird scenes inside the gold mine. The highway west, ride the snake, ride the snake to the lake. Ancient lake, snake is long, 7 miles, ride the snake. skin is cold. The West is the best. The West is the best. The rest. The blue boss is calling us. The blue boss is calling us. Driver, taking us. The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery, and he walked on down the hall. He went to the room where his sister lived, and then he paid a visit to his brother, and then he walked on down the hall, and he came to a door, and he looked inside. Father, yes, son, I want to kill you. Mother, I want to. With us, come on, baby, take a chance with us.
Vertigo Trip sur France Inter.
The End, la célèbre chanson de Jim Morrison avec les Doors, réinterprétée par celle qu'il a bien connue, Nico. C'était en 1974, un album réalisé par John Cale. Alors, c'est notoire, Nico s'est drogué jusqu'à la fin de sa vie, elle était clairement autodestructrice et ne s'en cachait pas, et travailler avec des gens comme elle, c'est pas une partie de plaisir. D'une lucidité, pour ainsi dire, suraiguë, Nico a dit à la fin de sa vie « Je préfère me droguer plutôt qu'être enfermé dans un asile de fous. Je suis nihiliste, alors j'aime la destruction, il me faut bien l'admettre. Et vous savez, pour empêcher quelqu'un de se détruire, il faut de bonnes raisons. » Si vous lisez l'anglais, je vous conseille le témoignage aussi franc que touchant de James Young, qui a réalisé un de ses derniers albums, même son dernier album, Camera Obscura, qui est sorti en 1985. Un livre qui s'appelle « Songs They Never Play on the Radio », des chansons qu'on passe jamais à la radio, ce soir, c'est pas tout à fait vrai. Il y a aussi une excellente biographie qui a été écrite par Serge Ferret et publiée chez l'éditeur marseillais Le Mot et le Reste, et qui s'appelle simplement Nico, femme fatale. La musique de Nico, disait le réalisateur artistique californien qui avait supervisé avec John Cale l'album The Marble Index à Los Angeles, disait de cette musique, ce n'est pas quelque chose qu'on écoute, mais un gouffre dans lequel on tombe. C'est très bien dit. Et quand Nico se plaignait à la fin des années 60 à John Cale que la compagnie discographique Elektra n'ait pas mieux promu The Marble Index, qu'elle n'en ait pas vendu davantage d'exemplaires, John Cale a répondu avec la franchise brutale qui peut le caractériser, mais enfin Nico, est-ce que le suicide, c'est quelque chose qui se vend, à ton avis ? Voici une chanson qui devait initialement figurer dans cet album. Elle a été exhumée quelques décennies plus tard. Nibelungen, c'est une évocation d'un peuple mystérieux de la mythologie nordique. Selon certaines légendes, c'était des nains qui possédaient un trésor, un l'anneau du Nibelung. C'est bien sûr le titre général de la tétralogie wagnérienne. Nico dans Nibelungen.
Since the first of you and me asleep in a Nibelungen land, Titanic curses trapped me in a banishment of state. Symbols vanish from my senses, dim and stale the view appears. Symbols captured in a trance vanish from my glance, for the various defenses. Iron forces strike the alarm, for the various defenses that choose to be here and there and lose the direction everywhere. Since the first of you and me asleep in a Nibelungen land where we cannot be, almond trees grow along the mountain trail, from their tongues the words are spelling the telling numb. I cannot hear it anymore, I cannot hear it anymore. Since the first of you and me here and there.
La voix de Nico, une dernière fois pour se quitter. Je vous rappelle que ces deux albums uniques en leur genre qu'elle a signés, The Marble Index et Desert Shore, parus respectivement en 1968 et 1970, viennent d'être réédités avec un livret très complet. La semaine prochaine, je vous proposerai une série de réécoutes consacrées à des rencontres que j'ai pu faire avec des musiciennes remarquables qui sont dans l'actualité puisqu'elles donneront toutes des concerts en France cette année. Il y aura Cat Power, Jessica Pratt et vous pourrez réécouter aussi l'interview exceptionnelle en deux parties que m'a accordée PJ Harvey en juin dernier. Merci beaucoup à Stéphane Ronxa qui a réalisé l'émission ce soir. C'était Jean-Philippe Jeanne à la technique. Merci également à Guillaume Cohener comme à Romain Couturier.